9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Fin février 1917, nous sommes à Zurich. Zurich, dans la maison d'un cordonnier, vous voyez, la Suisse alémanique éternelle, une petite chambre, c'est misérable, il faut bien dire. La fenêtre de la chambre en question, unique fenêtre, ouvre sur une charcuterie avec toute l'odeur de viande de porc et de salaison. Et dans la chambre, un couple, Vladimir Ulyanov et sa femme, Nadezhda Krupskaya. Lui est plus connu sous son nom de plume, puisque c'est Lénine. Lénine, l'auteur de « Que faire ?» ou plutôt « Comment faire la révolution bolchevique ?» après avoir été déporté en Sibérie par le régime du tsar. Lénine s'est exilé dans plusieurs pays d'Europe et maintenant le voilà donc en Suisse. Mais depuis le début de la guerre, Lénine est coupé de la Russie qui se bat contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. C'est difficile pour lui de voir tout ça de loin, bien sûr. Il voit bien que les choses changent et remuent. Bref, le journal du parti bolchevique, la Pravda, est interdit de toute façon, donc Lénine ne touche plus ses piges, il n'a plus de revenus. Il écrit à Chiapnikov, qui est le chef du parti à Saint-Pétersbourg, qu'à l'époque on appelle Petrograd, « J'ai besoin d'un gagne-pain, sinon, ma foi, il ne me reste plus qu'à crever ». Au cours d'un congrès à Zurich, on est en janvier 17, Lénine avoue « Je ne vais pas bien, j'ai les nerfs en pelote. L'Europe est grosse d'une révolution, dit-il, mais il ajoute, nous les vieux, nous ne verrons peut-être pas les luttes décisives de la révolution imminente. Il ne croit pas à une révolution tout à fait pour demain, Lénine. Il est convaincu que la guerre a tout retardé, en vérité. Bref, il est en pleine déprime. Jusqu'au jour où, allant acheter ses journaux, il découvre les gros titres du journal de Genève. Le journal de Genève annonce des manifestations monstres en Russie pour réclamer du pain et puis des mutineries dans l'armée. Ah, inutile de vous dire que Lénine ne manque plus aucun journal. Et un jour, début mars 17, voilà le titre incroyable, le tsar abdique. La Douma a constitué un gouvernement provisoire qui a placé les Romanov en résidence surveillée au palais Alexandre. La monarchie s'est écroulée. Les bolcheviks n'ont joué dans cette affaire quasiment aucun rôle puisque la plupart étaient relégués en Sibérie ou en exil. Bref, à Zurich, Krupskaya y croit à peine. Peut-être que c'est un canular, dit-elle. Et Lénine, non mais c'est renversant, c'est incroyable, tellement inattendu. Stéphane Courtois vient de faire paraître chez Perrin un livre intitulé « Lénine, l'inventeur du totalitarisme ». Et voici ce qu'il nous dit. « Il bascula soudain d'une dépression mélancolique à une incroyable exaltation. Dès le 16 mars, il écrivit à sa camarade Kolontai « C'est la première étape de la révolution qui ne sera ni la dernière, ni russe seulement ». Il avait déjà en tête le plan d'un blitzkrieg révolutionnaire menant tout droit à la prise du pouvoir et à la révolution communiste, dit Stéphane Courtois, et il ne pensait qu'à rejoindre au plus vite ce nouveau champ de bataille.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Depuis Zurich, Lénine envoie à la Pravda, donc à Petrograd, des articles sur la ligne à suivre, une ligne dure. Il faut combattre le gouvernement bourgeois. Il faut s'opposer aux mensheviks, donc aux réformateurs, si vous voulez. Il faut armer les ouvriers, transférer le pouvoir aux soviets, signer la paix immédiate avec l'Allemagne et nationaliser les terres. Ça y est, il est parti dans son plan qu'il avait depuis si longtemps mûri, me direz-vous. Sauf qu'à Petrograd, le congrès des bolcheviks, tenu par Kamenev et Staline, entrée de Sibérie, ce congrès ne choisit pas la ligne dure de Lénine. Les bolcheviks sont favorables à l'alliance, dans un premier temps, avec les socialistes plus modérés et à la poursuite de la guerre contre les monarchies. Quand il prend connaissance des discussions qui ont donc eu lieu au congrès, Lénine est tout simplement ivre de rage. « C'est tout simplement de la... » dit-il. Et Krupskaya dit « Vladimir, enfin, surveille ton langage !» Lénine comprend que s'il veut imposer ses vues, il doit rentrer à Petrograd. « Rentrons, dit-il, mais comment ? Il faut traverser l'Allemagne, puis le front est. C'est pas simple. Il faudrait prendre un train déguisé en. Il faudrait se déguiser en Suédois. Un Suédois sourd-muet. Comme ça, au moins, on lui poserait pas de questions. Mais c'est quand même bien aventuré. Il y a une autre idée qui serait carrément de s'envoler en biplan. Hein, c'est l'époque des avions biplans. N'oubliez pas qu'on est en 1917. S'envoler au-dessus de l'Europe. Mais là, c'est vraiment carrément très risqué. Lénine entre en contact avec le gouvernement allemand. À vrai dire, ça fait déjà quelques mois que Lénine a des liens avec les Allemands qui font le calcul qu'ils ont tout à gagner d'une révolution en Russie. Si on exporte la révolution en Russie, ça va rendre le régime du tsar, enfin le régime qui est en train de s'installer à la place du tsar, pour être plus juste, ça va rendre ce régime très très fragile et ça permettra de libérer le front Est. Ce qui fait que les Allemands, de façon très cynique, vont autoriser 32 exilés à traverser le pays. Lénine lui-même va écrire en 1918 « Il y a eu une coïncidence d'intérêt. Nous aurions été idiots de ne pas l'exploiter. » Bon, le 27 mars 1917, à Gottmadingen, à la frontière suisse-allemande, Lénine, Krupskaya, Zinoviev, qui est là aussi, et quelques autres bolcheviks, montent dans un train allemand. Il est convenu qu'ils n'en descendront qu'à la frontière russe. C'est pour ça qu'on parle de wagons plombés, de wagons scellés. En fait, c'est simplement une image. Mais ça donne une image assez juste, assez claire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, les Allemands font entrer les bolcheviks à la frontière suisse et ils ne les feront descendre qu'une fois rentrés, une fois arrivés en Russie. Lénine impose ses règles dans les voitures de chemin de fer. Interdiction de fumer, notamment. Le train traverse l'Allemagne du sud au nord, puis la Suède, puis la Finlande, et enfin donc il arrive à Petrograd où il y a tout un comité d'accueil. On attend le vieux, comme on l'appelle. Il n'a que 46 ans, Lénine, mais pour les camarades bolcheviks, c'est le vieux. Dans son « Jeune Staline » qui est paru en 2008 chez Kalman Levy, Simon Sebag Montefiore nous brosse le portrait de ce Lénine. Avec son chapeau mou, son costume de tweed et son parapluie bourgeois, ce petit homme chauve était un inconnu en Russie. Cependant, c'était là un Lénine plus furieux, plus violent, impitoyable et impatient que celui qui était parti en exil une décennie plus tôt. « Je ne peux écouter trop souvent de musique, » dit-il après avoir entendu la sonate Appassionata de Beethoven. « Cela m'incite à vouloir dire des choses aimables et stupides et à tapoter la tête des gens, mais à présent, il faut leur taper sur la tête. Il faut les frapper sans pitié. » Thank you. le final de la Sonata Passionata de Beethoven, merveilleusement interprétée par Maurizio Pollini.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, Lénine, avec ses quelques camarades, là, a traversé toute une partie de l'Europe du Nord pour arriver donc à Petrograd et à la gare. Celui qui monte dans le wagon pour l'accueillir, c'est Staline. Ils se connaissent bien. Lénine apprécie cet homme d'action impitoyable qu'est Staline. Vous pouviez lui confier n'importe quelle tâche, dira-t-il. Et Staline reconnaît celui qui va être le chef de cette révolution en marche. Ils planifient ensemble la suite des événements. Ça dure tout un moment. Et puis, ils vont quitter le wagon vers minuit. Et là, dans la gare, il y a toute une foule qui est venue, drapeau rouge en main, acclamer Lénine, fanfare, on joue la Marseillaise, Lénine passe... tous les révolutionnaires de tous les pays du monde jouent toujours la Marseillaise. Lénine passe en revue les marins de Kronstadt, les ouvriers de Poulitov, l'usine Poulitov. Mais Lénine ne se laisse pas pour autant attendrir par les ovations qu'il l'accueille. Il adresse un premier avertissement à la foule. Avec ses discours doucereux et ses belles promesses, le gouvernement provisoire vous trompe, tout comme il trompe le peuple russe sans exception. Il faut mettre fin à la guerre de brigandage impérialiste. Il faut donner tout le pouvoir aux soviets. Les soviets sont ces conseils d'ouvriers à Petrograd, à Moscou, qui représentent des centaines de milliers de travailleurs. Il y en a aussi dans l'armée des soviets, qui vont constituer en quelque sorte un contre-pouvoir sur lequel Lénine va souffler comme on souffle sur des braises. Et puis il s'engouffre dans une voiture blindée pour se rendre directement au QG des bolcheviks, qui ne sont plus dans la clandestinité maintenant. Ils se sont installés dans un beau palais, le somptueux palais de la Kresinska, qui était cette ballerie favorite de Nicolas II à l'époque de sa jeunesse. Ensuite, elle est devenue la maîtresse de son cousin Andrei Romanov. Imaginez un somptueux palais comme on peut en avoir chez ces dames très, très fortunées, n'est-ce pas ? Avec parquets marquetés, miroirs immenses, des marbres, des dorures partout et des velours et de la soie. C'est dans ce cadre improbable que les bolcheviks s'installent. Ils sont là comme en campement. Ils fument, ils mangent, ils dorment et surtout, ils débattent de la démocratie, de la révolution. En tout cas, ça c'était le train de vie général jusqu'à l'arrivée du vieux. Le soir même et le lendemain, Lénine change tout. Il va asséner aux nouveaux bolcheviks qui sont là, réunis, des slogans violents prônant l'opposition aux démocrates, le pouvoir aux soviets, la paix, la nationalisation des terres. Toujours cette idée, cette espèce de tétralogie léninienne. Et Trotsky, qui vient de rentrer d'exil, remarque « Les bolcheviks étaient aussi peu préparés à Lénine qu'ils l'avaient été à la révolution de février. » Ils sont surpris par tout ce qui se passe. La vérité, c'est que Lénine les effraie, ces bolcheviks. Surtout ceux qui sont restés en Russie, qui ont souffert de la répression tsariste, qui vivent la démocratisation avec bonheur, ça leur suffit déjà. Stéphane Courtois, dans Lénine, cite donc Claude Anet, qui était un journaliste français à l'époque, qui était présent à Petrograd. Lénine n'a pas triomphé hier soir au congrès des différentes fractions du Parti social-démocrate. Il a été mal accueilli. Cet illuminé qui prêche la guerre à l'intérieur et la paix avec l'ennemi du dehors a réussi aujourd'hui à faire l'union contre lui. Oui, d'habitude on dit qu'il faut faire la paix à l'intérieur pour mener la guerre à l'extérieur. Eh bien, pour Lénine, c'est l'inverse. Il faut faire la guerre à l'intérieur et la paix à l'extérieur pour accroître la révolution même. Le bolchevique Kamenev écrit dans la Pravda: quant au schéma général du camarade Lénine, il nous semble inacceptable, étant donné qu'il part du principe que la révolution démocratique bourgeoise est terminée et qu'il table sur une transformation immédiate de cette révolution en révolution socialiste. Le bolchevique Plekhanov écrit que Lénine plante l'étendard de la guerre civile au sein de la démocratie révolutionnaire. Des remarques qui, pour Lénine, sont tout simplement délirantes, mais il voit bien à quel point il est décalé par rapport à ses camarades et à quel point il est isolé surtout. C'est un idéologue, Lénine, mais, et c'est ce qui va tout changer, il possède au point suprême un véritable sens politique. Il comprend qu'il est trop tôt pour sonner la révolution, le parti n'est pas mûr autour de lui, ça traîne des pieds, le soviet de Petrograd n'est pas sous contrôle, et la guerre fait rage toujours, et l'approvisionnement est critique. Bref, Lénine renonce, alors quand je dis renonce, renonce provisoirement à l'idée de guerre civile européenne, de dictature du prolétariat ou encore de nationalisation des terres. Il attend que ça mûrisse. Il va pouvoir compter sur les erreurs de ce gouvernement provisoire qui lui-même s'est peut-être retrouvé un peu vite au pouvoir. Une des erreurs de ce gouvernement, c'est de repousser la réforme agraire qui était très très attendue par le peuple, par le petit peuple, si je puis dire. Deuxième erreur, une note secrète du ministère de la guerre révèle que le gouvernement compte annexer des territoires ottomans. Les Russes peuvent soutenir une guerre défensive, mais alors pas une guerre d'annexion, mais de quoi se mêlent ces socialistes qui d'un seul coup veulent s'étendre? Le gouvernement va perdre assez vite le soutien de la population. Le soviet de Petrograd s'indigne de ce nouvel impérialisme qui vient remplacer celui des tsars et appelle même au soulèvement. Et là, évidemment, c'est Lénine qui va avoir beau jeu de faire semblant d'être celui qui calme les choses. Non, non, dit-il, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi est-ce que Lénine freine maintenant après avoir attisé? Eh bien, le but pour lui, c'est de garder la main sur les événements. Il faut d'abord qu'il contrôle le parti. S'il le laisse prendre le pouvoir avant de s'en être assuré, il risque d'être éjecté, tout simplement. Et Lénine va donc travailler avec Staline et avec Trotsky, et à force de manœuvres, de persuasions, de discours partout, les voilà qui, tous les trois, parviennent à convaincre les autres bolcheviks de la stratégie qu'il faut mener. 1. Contrôler les soviets, et 2. Seulement ensuite, quand on aura les soviets dans la main, alors oui, renverser le gouvernement. Il y a un menchevik qui note dans son journal, il s'appelle Sukhanov. Lénine faisait preuve d'une force si surprenante, d'une puissance si surhumaine dans l'attaque. Il va tenir un congrès du parti bolchevique du 14 au 29 avril 1917. Notez bien qu'on est maintenant bien avancé dans le printemps 1917. Ça a lieu dans la salle de bal du palais de la danseuse, là, de la Kresinska. Lénine obtient une majorité de 71 voix en sa faveur, 39 contre lui, 8 abstentions. Le congrès va élire les membres du comité central et dans l'ordre, Lénine, Zinoviev, Staline. Bon, ben, vous avez compris ce qui se passe. Il a pris le pouvoir dans le parti. Et immédiatement, il va créer une branche militaire. C'est important, ça, le bras armé, la garde rouge. Maintenant, il lui reste à prendre le contrôle du soviet de Petrograd, qui lui est encore aux mains des mencheviks pour le moment. En juin, la branche militaire du parti, donc ça fait quand même 60 000 soldats, hein, organise une manifestation en armes qui pourrait aboutir à une véritable prise de pouvoir. C'est quasiment un coup de force, mais ce n'est toujours pas le moment. Lénine laisse faire, il serait mauvais de laisser passer l'occasion. Mais le soviet de Petrograd perçoit le danger, il interdit la manifestation en question et Lénine se dit qu'il a peut-être été un peu léger dans cette affaire. Il se dit qu'un coup de force pourrait échouer, la répression s'en suivrait. Un faux mouvement de notre part pourrait tout ruiner, dit-il. Et donc, au dernier moment, c'est lui qui ordonne d'annuler. Non, non, on n'est pas encore arrivé à la veille du grand soir. Quelques mesures du premier mouvement de la symphonie Leningrad de Dmitri Shostakovich, l'Orchestre National de France, était dirigé par Kurt Mazur.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
La stratégie de Lénine, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'enlisement. Vous savez, il attend que s'embourbe ce gouvernement qui n'arrive plus à rien. Le 16 juin, on est toujours en 1917, ai-je besoin de le préciser, le ministre de la guerre lance une grande offensive sur le front qui va se heurter à une grande résistance autrichienne et allemande. C'est Kerensky, le ministre de la guerre. Des mutineries éclatent du côté russe, soutenues par les bolcheviks, les soldats refusent d'aller au front. Et alors que Lénine est parti reprendre un peu de force en Finlande, faut vous dire qu'il a des migraines complètement extraordinaires, la garde rouge organise une nouvelle manifestation à Petrograd. On est là le 3 juillet 17. Les soldats bolcheviks marchent sur le palais de Tauride, qui est le siège de la Douma, hein, du Parlement et du gouvernement. Les marins de Kronstadt se mutinent, ce sera le célèbre épisode que vous connaissez peut-être, ils vont massacrer 120 officiers, et puis Ils vont réclamer de Lénine l'ordre de prendre la capitale, ce qui veut dire que là, une partie de l'armée s'en remet à Lénine et Petrograd est envahi par la foule, 400 000 ouvriers, 20 000 marins armés. Ils font le siège du palais de Tauride dans l'espoir que le soviet de Petrograd dépose le gouvernement, mais les membres de ce soviet menchevique refusent de prendre le pouvoir et la foule là se dit qu'il n'y a rien à en tirer. Elle se sent trahie, elle se retourne contre les membres du soviet prête à les lyncher. Et Lénine rentre donc de ses vacances, un peu en catastrophe décidément, toujours un petit peu dépassé par les événements eux-mêmes. Lui non plus n'a pas l'intention de voir le soviet menchevique prendre le pouvoir, la révolution risquerait de lui échapper. Donc il décide de ne rien faire. Le voilà au balcon de son palais, le palais Kshesinska, qui prononce un petit discours assez vague, sans mot d'ordre, et la foule va s'égayer. Je cite de nouveau Montefiore qui nous raconte la suite. À 17h, le ciel se mit de la partie et la pluie submergea cette révolution impromptue. La foule se dispersa. Le régiment loyal libéra le soviet assiégé, perçu à présent comme un parlement de bavards édentés. J'aime bien l'expression. Lénine et le comité central bolchevique abattu se retirèrent pitoyablement et les journées de juillet étaient terminées.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et dès le lendemain, Kerensky prend la tête de ce gouvernement provisoire. Il rend Lénine et les bolcheviques responsables de tout ce qui vient de se passer, là, de toutes ces émeutes, ces mutineries. Il révèle que Lénine a aidé tout cela et qu'il est lui-même financé par l'Allemagne. Il a été complètement porté par les Allemands pour rentrer en Russie. Ça, c'est vrai que c'est pas formidable pour l'image de marque. Et on va voir Kerensky ordonner à l'armée d'assiéger le QG des bolcheviks, donc le palais de la Kreshinska. 500 bolcheviks sont arrêtés, accusés de trahison. Et parmi eux, il y a Kamenev, il y a Trotsky, bien sûr, mais Lénine a encore une fois réussi à prendre la poudre des scampettes grâce à Staline d'ailleurs, qui est un véritable professionnel de la clandestinité, Staline. Il fait passer Lénine de planque en planque. Il va y en avoir 5 dans une durée de 3 jours. Et le 11 juillet, Staline rase de ses mains la barbichette et la moustache de Lénine. Il l'affuble d'une perruque, ce qui va lui permettre de passer incognito au milieu de la petite foule dans la gare jusqu'au train qui le conduira en Finlande. Est-ce que c'est un échec pour Lénine ? Eh bien non, en fait. En septembre 17, sur ordre de Lénine, les bolcheviks vont prendre le contrôle des soviets de Petrograd et de Moscou. Ça, c'est ce qu'il attendait, Lénine. Ça lui permet de rentrer clandestinement à Petrograd. Maintenant qu'il contrôle le parti, qu'il contrôle le soviet, il pense qu'il est temps. Il déclare devant le comité central du parti bolchevique « La situation politique est tout à fait mûre » pour le transfert du pouvoir. Eh bien, vous nous voyez venir. Ce sera bien sûr le 25 octobre 1917, les gardes rouges qui encerclent carrément le palais d'hiver et qui vont arrêter les ministres. Le soviet désigne un nouveau gouvernement qu'il appellera le Conseil des commissaires du peuple. À la tête de ce Conseil des commissaires du peuple, un certain Vladimir Ilyitch. Autant dire que Lénine a tout réussi et que ce qui est en train de s'installer à partir de ce moment-là, c'est le pouvoir des bolcheviks sur l'ensemble de la Russie. Quand vous pensez à cet homme qui, quelques mois plus tôt, complètement déprimé, lisait dans les journaux suisses des nouvelles de la Russie. Il lui aura fallu, avec beaucoup d'habileté, avec pas mal de félonie aussi, il lui aura fallu moins d'un an pour s'assurer du pouvoir et pour faire triompher sa révolution.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre Anquetin pour cette plongée dans la Russie des soviets. Et voici le camarade Christian.
Cher camarade Franck Ferrand, vous restez en Russie puisque nous allons parler des héroïnes de Stalingrad. Vous
oui.
allez parler.
Oui, je me suis dit que c'était pas mal de faire une journée complète sur ce thème.
Alors, à propos de héros, je voudrais, comme on dit quelquefois, pousser un petit coup de gueule parce que hier soir, je suis tombé sur une information que beaucoup de journalistes ont déjà repris ce matin sur différentes radios. Ça se passe à Carcassonne, figurez-vous. On demande à des gens de la municipalité, de faire des plaques de rue, vous savez, ces plaques annonciatrices de telle ou telle rue, et on s'aperçoit, horreur, C'est une catastrophe. Ça ne m'étonne pas par rapport aux temps actuels et vous savez, les tablettes avec l'orthographe réduite. Avenue Pierre Curie, C-U-2-R-Y.
C'est épicé, quand même.
Ça vous fait rire, oui, si j'ose dire. Prix Nobel de physique, on rappelle, en 1903. Et puis plus tard, quelqu'un rappelait qu'à Auxerre, il y a une plaque qui était sortie avec Django Reinhardt, chef d'orchestre, orchestre avec un cul. Voilà. Alors je reprendrai la phrase de Satie s'adressant à un critique qui l'avait malmené, Jean Poueg, il lui avait dit « Vous n'êtes qu'un cul et un cul sans musique ». Eh bien la musique arrive dans un instant avec Mozart, ça devient quand même catastrophique. Ben, alors oui, là, les plaques vont être changées à Carcassonne, je vous rappelle quand même.
Oui, vous pouvez espérer, oui.
Ville magnifique à visiter d'ailleurs, au demeurant. Merci mon cher Franck. Il y a de quoi rire quand même de temps en temps, mais c'est quand même attristant aussi.
Prenant les choses.
Oui. Légèrement. À tout à l'heure, Franck. Merci beaucoup. Et puis, bonne semaine à vous.
Bonne semaine.